Nous sommes de retour avec Henri Blocher pour un épisode bonus consacré à la figure de Jean Calvin et à la question, controversée s'il en est, de la prédestination. Comment pourrait-on positivement parler de l'apport de Calvin sur la question de la prédestination? Comment en est-il arrivé là? En quoi pouvons-nous bénéficier en tant qu'évangélique actuel de la vision de Jean Calvin sur cette question de l'élection?
Ce que j'ai à cœur tout particulièrement, c'est de corriger une caricature de Calvin, une interprétation de son œuvre, parfois parmi ceux qui le suivent, comme essentiellement le développement d'une thèse, comme arbitrairement ou abstraitement posée, sur la souveraineté de Dieu. Il me semble que l'on manque les véritables motivations qui l'ont conduit dans son travail théologique, et c'est ce que je voudrais rappeler maintenant assez brièvement. Calvin, à mes yeux, est d'abord un bibliste, d'abord un exégète et un prédicateur. J'hésite un peu entre la priorité à donner soit à l'exégète, ce que je faisais plutôt dans le passé, ou au prédicateur. Il me semble que, tout en étant l'un des meilleurs hébraïsants de son époque, un helléniste très distingué, donc travaillant l'original comme, je pense, aucun autre ne l'a fait mieux que lui au XVIe siècle, et peut-être dans pas mal de siècles. Calvin a quand même encore plus clairement était le prédicateur qui transmettait la substance existentiellement capitale du texte biblique aux auditoires auxquels il s'adressait si souvent. Donc, Calvin, bibliste, prédicateur, je pense qu'il a retenu la doctrine de la prédestination et de l'élection divine qu'il a mis en avant, parce que l'écriture l'y conduisait, parce qu'il la rencontrait dans de très nombreuses pages, parce qu'il y a des textes d'une force vraiment inouïe dans ce sens. Et j'invite ceux qui en douteraient à considérer dans son texte la multitude des références qu'il donne, et consulter peut-être dans ses commentaires, alors l'exégèse qu'il en développe. Ils verront que cette exégèse est particulièrement soucieuse du sens naturel des textes, sans forcer. Certains l'ont même reproché au XVIe siècle, et certains luthériens en particulier lui reprochaient de rester trop près des textes tels qu'ils étaient énoncés dans les langues originales. Donc, c'est d'abord conduit par sa lecture de très nombreux textes bibliques que Calvin a été conduit à affirmer une élection divine inconditionnelle, une prédestination dont Dieu décide tout. Alors, je déplore qu'il ait été quand même au-delà dans la forme du texte biblique en parlant de double prédestination, de prédestination jumelle, car l'Écriture ne le fait pas. Alors, elle vient très près d'une telle présentation. On croirait presque qu'il y a symétrie quand on lit le chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Mais si on scrute le détail, on voit que Paul précisément se retient de termes qui impliqueraient une pure et simple symétrie entre la prédestination au salut et la prédestination, comme il dit, comme Calvin ose le dire, à la perdition. Paul ne dit pas cela. Saint Augustin l'a dit une ou deux fois, assez rarement, mais il l'a dit, et je pense que c'est ce qui a aussi induit l'usage du langage que je déplore chez Calvin, mais cela est essentiellement une affaire de présentation, et la saveur et la teneur biblique de sa conviction, je crois, ne doit pas être mise en doute. Et cela, bien sûr, c'est une leçon pour nous. Je pense que si nous devons adhérer à la doctrine de l'élection inconditionnelle, c'est parce que Dieu lui-même nous l'a révélé, Dieu nous l'enseigne dans l'écriture canonique. Associé à ce biblicisme de Calvin, il y a à coup sûr une certaine passion pour que toute gloire revienne à Dieu seul, que Dieu soit reconnu comme l'alpha et l'oméga, qu'il soit dans toute l'opération du salut, le premier et le seul en qui la gloire puisse être attribuée. Donc, nous avons à coup sûr chez Calvin un sens de la transcendance divine, de la sainteté de Dieu et de sa royauté qui est très développée et qui joue en même temps que sa lecture biblique le conduit à affirmer cette doctrine. Il y a un troisième facteur qui, lui, ne me semble pas avoir été assez remarqué. Calvin parle très très souvent de l'apaisement de la conscience, de la consolation de la conscience chrétienne. C'est une note subjective, on pourrait presque dire subjectiviste, qu'on n'a pas l'habitude d'associer à l'image qu'on se fait de Calvin, mais je crois pouvoir dire qu'elle revient assez souvent lorsqu'il parle de la justification par la foi. À coup sûr, il fait souvent référence à cette seule possibilité pour nous d'être en paix intérieurement dans le rapport avec Dieu. Et en ce qui concerne la doctrine de la prédestination, il souligne qu'elle est douce et savoureuse parce qu'elle nous permet d'avoir une entière assurance. Si tout dépend de Dieu, s'il nous a touchés dans sa grâce, alors nous sommes en pleine sécurité, non pas nonchalance, mais en pleine sécurité dans notre rapport à lui. C'est Dieu qui nous a pris en charge et Dieu ne nous lâchera pas. Voilà une ligne aussi qui me semble importante dans la présentation de ce sujet chez Calvin.